plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, V comme Varda, Agnès Varda, la documenteuse, avec Brigitte Rollet et Marcos Uzal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Agnès Varda a eu trois vies. Elle a commencé photographe, accompagnant de 1948 à 1960 les tout jeunes festivals d'Avignon et théâtre national populaire de Jean Villard. Et désormais, elle est plasticienne, ou plutôt artiste visuelle, comme elle préfère dire, depuis qu'en 2003, Hans Ulrich Obrist l'a invitée à monter une installation à la Biennale de Venise. Sa vie du milieu, c'est bien sûr celle d'une immense cinéaste, précurseur de la nouvelle vague avec La Pointe courte dès 1954, seule femme de cette bande de garçons avec Cléo de 5 à 7, Lion d'or à la Mostra de Venise en 1985 avec Santoine Illois, une quarantaine de films de tout format, tout support et toute durée, en noir et blanc comme en couleur et parfois les deux, de fiction et documentaire et parfois des deux, qui se jouent des frontières et des genres cinématographiques comme sexuels, un cinéma vagabond et fragmentaire, ludique et audacieux qui tient en deux mots, liberté et invention. Invention des formes comme des moyens de production. En attendant les 15 jours qu'Agnès Varda passera à la Cinémathèque française à partir de la mi-janvier, Arte sort très opportunément un coffret de 7 DVD rassemblant les incontournables du cinéma documentaire de l'infatigable glaneuse d'images et en DVD individuel, 3 de ses longs métrages récemment restaurés, Le Bonheur, L'une chante, l'autre pas et Jaco de Nantes. L'occasion pour Plan Large de se replonger avec Brigitte Rollet, chercheuse en études cinématographiques au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines et enseignante à Sciences Po, et Marcos Uzal dans une œuvre à la fois très personnelle, comme un journal intime des différents moments de sa vie, œuvre aussi très ouverte aux autres, notamment à ceux que la société a mis sur le côté ou à la marge. En fin d'émission, Marcos Uzal nous évoquera un film rare de Philippe Garrel, sorti en 1979, enfin réalisé en 1979, sorti trois ans plus tard, prix Jean Vigo cette année-là en 1982, L'Enfant secret, qui sort enfin en DVD et en Blu-ray, Le Bonheur.
Où il boit le bébé? Petit bébé, fais-moi sourire. Garde-moi. Et ça, je fais de dos.
C'est bien. C'est une maison de poupée pour Isabelle plus tard?
Non, c'est une cabane de trappeurs pour Robert et pour moi. Les filles pourront pas y venir.
Même pas moi?
Toi, tu as tous les droits. Sauf celui de porter toujours ce garçon.
Il est si petit.
Faut qu'il marche. Là, je m'arrête un peu, je vais revenir.
T'inquiète pas, on n'est pas aux pièces.
C'est ça que j'aime quand on est tous ensemble. Mais il me manque Gisou.
Elle ne quitte pas le berceau. D'ici qu'elle me demande une petite sœur.
J'aimerais bien aussi qu'on ait beaucoup d'enfants. Il faut attendre, je crois.
Oui, moi aussi, je crois.
Et puis je ne veux pas que tu sois fatiguée. Il faut que tu aies du temps pour qu'on se repose ensemble.
Une certaine idée du bonheur, ça pourrait être un documentaire sur Jean-Claude Drouot, le comédien qui jouait Thierry Lafronde à l'époque à la télévision, et sa famille, puisqu'il joue avec sa femme qu'on a entendu, ses enfants qu'on a entendu, et puis la fiction va s'inviter sous la forme d'une autre femme, film très étonnant, très bizarre en fait, sous son apparence comme ça de bonheur et de musique de Mozart qui vient baigner tout ça. Le bonheur pour qui d'abord? Et c'est un film qui a fait beaucoup scandale à l'époque, et vous-même Brigitte Rollet, qui le montrait régulièrement à vos étudiants, vous vous rendez compte que c'est un film qui génère encore aujourd'hui un vrai malaise.
Oui, d'autant plus que ça n'a l'air de rien. Mais c'est très propre à Varda, ça. Elle arrive comme ça, un petit peu de biais. Elle a l'air de montrer quelque chose. Et d'ailleurs, quand on regarde la réception de ce film, on se rend compte qu'il y a eu un grand malentendu. C'est-à-dire que, à l'époque, certains ont trouvé ça mièvre et n'ont pas du tout vu le potentiel transgressif et potentiellement explosif aussi. Par contre, le fait que le film ait été interdit au moins 18 ans montre bien qu'il y en a qui avaient bien compris qu'il y avait quand même quelque chose là-dessous qui était plus que des belles images d'un bonheur dont on peut voir qu'il résiste à tous les coups du destin. Et en effet, mes étudiants, alors il y a toujours la question autour de la disparition de Thérèse, si elle laisse là encore un certain flou sur la cause de cette disparition.
C'est ce qui est souvent le cas chez Agnès Varda, oui. C'est que souvent elle ne va pas nous montrer d'où viennent les personnages, qui ils sont. Il y a un refus du psychologisme, refus d'expliquer des choses. Elle nous donne des choses à voir et puis on a un travail à faire, nous aussi.
Oui, mais c'est toujours un peu, et justement le fait qu'il y ait des multiples lectures de ces films, je trouve ça contribue à la richesse du cinéma de Varda, qui est pas donné tout cuit avec voilà une seule lecture. Et je trouve que à la fois dans son travail sur la forme et aussi dans des scénarios qui sont toujours extrêmement simples. Enfin, la Nouvelle Vague n'est pas connue pour avoir des scénarios très très compliqués, mais il y a une volonté de dire beaucoup avec peu. Et en utilisant, là, c'est l'usage qu'elle fait des couleurs, la façon de... un choix de montage aussi qui raconte plus que simplement la vie quotidienne d'un couple de manuel, hein, puisqu'elle est couturière et lui est menuisier, même si cette dimension-là est tout à fait intéressante aussi.
On a un effet d'inquiétude qui apparaît presque dès le générique. Marco Souzal, je ne sais pas si vous avez revu récemment ce film, mais on a ce plan général un peu flou d'une famille qui s'avance au lointain. C'est une lumière d'été. Et puis on a ces plans très abrupts d'un tournesol. Et à bien regarder, ce tournesol se fane au fur et à mesure du générique.
Oui, parce que je crois que c'est un film où apparaît aussi sous cette image très colorée, presque de tapisserie, on pourrait dire, l'aspect cruel aussi qu'il y a dans le cinéma de Varda, mais la cruauté qui est celle de la vie, c'est-à-dire l'omniprésence de la mort sous la joie, sous les couleurs. Et c'est une chose peut-être qu'on oublie un peu chez Varda, c'est qu'il y a ces deux aspects-là. Peut-être l'image qu'elle a donnée avec ses derniers films, c'est plutôt une sorte de légèreté, comme ça, de un peu guillerette et tout. Et en fait, quand on regarde de très près son œuvre, on s'aperçoit qu'il y a toujours cette présence de la mort qui est là. Je me souviens c'est Jean-Claude Guiguet qui disait de Jacques Demy. Je dis ça parce que Le Bonheur me semble être peut-être le film où elle rencontre quelque chose du cinéma de Demy. Et Jean-Claude Guiguet disait des films de Demy que c'est des bouquets de fleurs suspendus au-dessus d'un gouffre. Et Le Bonheur, c'est vraiment ça, quoi. Et justement, les fleurs, la nature, c'est à la fois, dans l'idée du naturalisme, c'est à la fois la beauté des fleurs, mais c'est aussi l'omniprésence de la mort, des choses qui se fanent et qui pourrissent.
Puis il y a aussi dans cette façon de jouer avec une image du bonheur publicitaire. En fait, c'est surtout ça qui est privilégié. Et moi, j'aime beaucoup la façon dont, n'ayant pas de culture cinématographique, elle le dit elle-même, quand René l'a aidé à monter La Pointe Courte, il lui dit « Ah tiens, ça me rappelle un plan de La Terre Tremble ». Et elle dit « C'est quoi La Terre Tremble ?» Donc elle n'a pas du tout. Et du coup, cette virginité lui permet de vraiment innover. Son cinéma est très inventif. Et là, dans les couleurs, cette façon de jouer sur les images publicitaire. Donc il y a ce mélange d'une culture populaire et d'une culture d'élite, puisqu'on voit à un moment une scène du déjeuner sur l'herbe de Renoir que les personnages regardent à la télévision. Et donc c'est constamment, je trouve que c'est aussi une illustration de cet entre-deux dans lequel elle se trouve par rapport aux cultures et la manière de filmer ces scènes sous un mode supposément publicitaire, mais avec un fond en effet qui est un petit peu tragique, même si on s'en rend pas nécessairement compte tout de suite. Je trouve que c'est aussi une des grandes qualités de son cinéma et qui n'a pas nécessairement d'équivalent ailleurs, puisqu'elle n'a pas de limite, elle n'a pas de cadre, elle n'a pas de... j'ai l'impression d'une liberté beaucoup plus forte que d'autres créateurs qui sont finalement un petit peu encadrés par les maîtres, les références, la tradition. Elle va au gré de ses envies et tout en ayant un œil de photographe qu'on retrouve, je trouve, dans ce film énormément. Et l'usage des couleurs n'est qu'un des aspects de cela.
pourquoi tu travailles pas, toi?
Avec ces deux-là? Puis quoi faire? J'ai rien appris. Il n'y a même pas de place à la crèche du quartier.
Ils sont mignons, tu sais.
Oui. Mathieu, oui. Marie est un peu plus fermée. Mais c'est ma faute, sûrement. Tu sais, j'ai perdu. Enfin, j'ai souvent envie de pleurer.
Écoute, c'est pas possible, cette histoire. Il faut faire quelque chose, parler à Jérôme.
Parler à Jérôme? Difficile. Il est fatigué. Puis il a une façon de sourire. Je dis plus rien. Rien que l'idée de lui annoncer que je suis une nouvelle enceinte. J'en suis malade.
T'es enceinte?
Oui.
Et tes parents, ils peuvent pas t'aider, ils sont eux.
Bon, mère Soissons. Ils veulent plus me voir.
Et ta tante?
Elle non plus.
Quel mélo. T'es enceinte de combien?
2 mois, plus ou moins.
Un coup de pleure pas, Suzanne, il faut te faire avorter, c'est tout.
Non, avorter ou comment? Tu crois que c'est facile?
Ben, on va trouver un moyen.
Puis l'idée d'en parler à Jérôme.
Enfin, il les a fait, ces gosses. Tu veux que je lui parle?
Toi? Non. Mais quel âge tu as?
17 ans, un peu plus.
Moi, j'ai l'impression d'avoir 100 ans.
Et en vrai, t'as quel âge?
22.
Quel mélo, dit Pauline, future pomme. Valérie Mérès à Suzanne Thérèse Lyotard, c'est l'une chante, l'autre pas. Alors, 12 ans ont passé depuis le bonheur, et c'est pas vraiment le bonheur dans cette famille. On l'a entendu, c'est un peu plus compliqué. Il me semble que c'est un film un peu à part dans la filmographie de d'Agnès Varda, Brigitte Rollet, pour plusieurs raisons. Pardon. D'abord parce que ici, elle propose des héroïnes qui sont de bonnes héroïnes. C'est comme ça que vous les écrivez, que vous les décrivez, il me semble, dans un texte que vous avez consacré à ce film, là où quand elle fera Sans toi ni loi, elle proposera avec Mona une héroïne beaucoup plus revêche, beaucoup plus difficile à aimer du premier abord, et puis parce que c'est le film le plus explicitement féministe dans son propos, dans son discours d'Agnès Varda, même si toute sa filmographie l'est. Évidemment par la manière dont elle déconstruit le récit, par la manière dont elle va proposer un certain type de personnage féminin précisément, mais celui-là c'est très clair.
Oui, très clair, mais personnellement, moi, je suis pas très convaincue par le féminisme de ce film, parce que ce n'est pas parce qu'un film représente une lutte féministe qu'il l'est. On pourrait trouver d'autres exemples. Je préfère le féminisme souterrain, implicite, des autres films, bien avant d'ailleurs les années 70. Mais là, ce qui est intéressant, je ne sais plus quand je disais bonne héroïne, mais c'est surtout cette idée de solidarité féminine, ça qui est vraiment très importante. Même si, et elle est très très rusée dans sa façon d'intégrer un possible contre-discours à son discours, dans son film, en particulier la scène où Pomme chante cette chanson sur les femmes bulles. Donc il y a quand même une apologie de la maternité qui n'était pas nécessairement partagée par toutes les féministes qui s'étaient quand même battues pour le droit à la contraception, et donc la question de la maternité est un peu différente. Mais c'est vrai que dans le public du planning familial où Pomme chante sa chanson des femmes bulles, quelqu'un lui dit « t'aurais pu chanter ça à un meeting de Laisser les vivre ». Et c'est très subtil en fait, parce qu'en effet c'est la question qu'on se dit aussi, cette façon de valoriser l'enfant, enfin il n'y a rien sur le fœtus, mais quand même c'est un discours qui pourrait très bien être utilisé par des personnes qui sont contre l'avortement. Et donc en fait, elle essaye dans ce film de rendre compte d'un combat, hein, on a cette célèbre reconstitution du procès de Bobigny avec Gisèle Halimi dans son propre rôle, mais en même temps, il me semble qu'en entre le début, la première partie où on a quand même un engagement, on voit Pomme, il y a la chanson des nains avortés, enfin il y a toute une reconstitution qui n'est pas simplement, surtout que le temps passé est assez court depuis la loi Veil. Dans la seconde partie, il me semble que là on tombe dans une espèce de maternitude, c'est-à-dire qu'on est dans la légende rose de la maternité, et là je trouve que c'est beaucoup moins convaincant. La partie Darius Pomme en Iran, je suis pas convaincue que ça marche tout à fait. Et en le revoyant là lors de cette petite rétrospective là à Montargis, pour organisée par les Cramés de la Bobine, que je salue d'ailleurs à cette occasion, je me suis rendu compte qu'en fait, de tous les films qui ont été montrés, c'est celui, je trouve, qui a le plus mal vieilli. Alors, je ne sais pas si c'est un point de vue partagé, mais il fait très daté. Alors, il y a aussi
d'autant,
le fait
d'autant qu'il fait peut-être référence à des genres dominants de l'époque qui sont un peu oubliés aujourd'hui, comme le roman photo,
oui.
Par exemple. Je ne sais pas si ça vous a frappé, Marco Souzal, mais ça joue évidemment avec la comédie musicale, puisqu'il y a tous ces moments chantés. Mais il y a un côté, on parlait de l'image un peu publicitaire du bonheur. Là, c'est clairement le roman photo, presque, qui est la source.
Oui, je relisais même qu'à l'époque, Varda avait pris ses distances avec le féminisme. Elle disait, c'est les problèmes de femmes qui m'intéressent et pas le féminisme. Mmh. Et que même, il y avait une critique à l'époque qui avait dit, c'est un peu le féminisme vu par Walt Disney. Voilà, donc il y avait eu cette critique-là. À propos du féminisme ou du regard féminin de Varda, moi, ce qui m'a frappé en revoyant un certain nombre de films, c'est par exemple sa façon de filmer le corps masculin, la nudité masculine qui revient souvent dans ses films, y compris dans les courts-métrages, dans les documentaires, qui est une chose assez assez unique et qui me semble être le propre, à mon avis, d'un regard féminin. Peut-être ça passe aussi par ça, disons, la féminité de Varda.
Oui, et ça passe aussi par une façon de ne jamais se victimiser. Dès les interviews, par exemple, à l'époque de Cléo de 5 à 7, elle va dire, quand on lui demande est-ce que c'est compliqué d'être une femme réalisatrice, elle va dire non, le problème, c'est pas d'être une femme ou un homme, tout le monde a les mêmes problèmes, la difficulté, c'est de faire du cinéma libre. Elle voudra jamais se réduire à cette identité.
Oui, oui, c'est quelqu'un, je me souviens que j'ai fait l'entrée Varda pour le dictionnaire des féministes. Et ce qui était un peu problématique, c'est qui définit qui est féministe. Bon, on s'était dit quand même, bon, donc Varda était incluse, mais je n'ai pas trouvé de référence dans lesquelles elle s'autodéfinisse de cette manière-là. Donc en fait, elle a... moi, ce discours, les hommes ont le même problème, enfin, je vois l'interview auquel vous faites référence, là, on ne peut pas dire qu'elle soit dans une grande solidarité vis-à-vis de ses consoeurs qui sont également en activité, elles ne sont pas très très nombreuses.
Bon, à l'époque, elle se compte sur les doigts d'une main d'un amputé.
Oui,
quoi.
Mais en même temps, elle veut être one of the boys, hein, un de la bande des cahiers, un de la bande de la nouvelle vague, et du coup, elle peut faire oublier qu'elle est une femme, c'est tout aussi bien. Et la conséquence, c'est une forme de, je dirais pas d'élite de solidarité, mais on peut pas dire qu'elle soit tout à fait partante pour cette idée d'une lutte collective. Mais en même temps, étant absente de France au moment de mai 68, il est difficile de savoir ce qu'elle aurait fait au moment de la création du MLF, par exemple.
Topo, Flaco, Indio, Lobo, Tita. Les homeboys et les homegirls, ce sont les membres des gangs. Il y a 300 gangs à Los Angeles, dont 15 à East LA. Chaque gang a un nom, un sigle et un signe. Lié au quartier, le barrio avec un V. Ici, VNE, Nouveau Quartier de l'Est. Happy Valley, la Vallée Heureuse. Hazard Grande ou Big Hazard.
A lot of people take the idea that joining a gang is to actually just go out and hassle people. That's not where it's at. You grow up playing with the kids, going to school with the kids. Before you know it, you're a teenager. And then after a while, maybe you do get into some kind of a hassle. But that's how you get into the gang trip, you know. You're not initiated or anything like that. You just happen to be born at a certain barrio Okay, when I paint at this, it's because there's a lot of gang killing, you know. And from what I understand, right here in this area right here, there was a couple of guys shot with this mural over here. I didn't just paint it just to make it look nice. You know, I'm trying to show that we are descendants of the Aztecs or the Mayans or the Toltecas, and that's what that he was part of the movement, the Chicano movement, see? And this is supposed to be his mother, and she's crying because they shot him, right? And that's his brother. And he's looking out the window thinking that he might be next. You see? There was 500 people killed last year. 500 teenagers.
First, I don't know. Things, they got killed. Or, you know, they had family problems. And they shot himself or whatever.
Où était Agnès Varda en mai 68? Eh bien, elle était à Los Angeles et elle y est restée un certain temps puisque c'est là qu'elle a tourné Murmure, ce documentaire sur les murals, comme dit Agnès Varda dans le commentaire de ce film. C'est donc, dans plan large aujourd'hui, le premier documentaire, officiellement documentaire d'Agnès Varda qu'on entend. Évidemment, c'est toujours plus compliqué chez Agnès Varda, Marco Souzal, d'abord parce qu'il y a cette voix, il y a cette voix off, cette voix jeu, comme elle va l'appeler elle aussi, qui l'amène à faire principalement des documentaires subjectifs. Ça, c'est quelque chose qui est totalement revendiqué de sa part. Elle en parle dans Varda par Agnès, hein, son livre des Cahiers du cinéma.
Oui, elle va faire un film très beau d'ailleurs qui s'appelle Documenteur d'ailleurs.
On va en parler dans un instant. Bon.
Et peut-être qu'on peut peut-être qualifier ça d'essai presque plus que documentaire. Brigitte parlait tout à l'heure de la filiation avec la Nouvelle Vague, mais je pense qu'aussi il y a un cinéaste auquel on peut la lier très fortement, qui est Chris Marker, par exemple. Mmh. Elle est plus de la génération presque de Marker. Mmh. Enfin, elle commence au même moment que Marker. Elle a comme point commun avec Marker de pas venir directement de la cinéphilie, mais de passer par la photographie. Et aussi de travailler sur, oui, ce qu'on pourrait appeler des essais, c'est-à-dire effectivement des documentaires très subjectifs qui vont, subjectivité, vous l'avez dit, qui va être présente à travers sa voix off, à travers ses textes très particuliers, avec plein de jeux de mots, plein de... et puis un peu plus tard, en apparaissant elle-même à l'écran, façon plus évidente, à partir des glaneurs et de la glaneuse notamment.
On pourrait faire des diagrammes sur l'apparition progressive du corps d'Agnès Varda à l'écran, ça on va en reparler un peu tout à l'heure, mais on parlait de ses références de photographes, les références de peinture, et c'est pas pour rien qu'elle fait un film sur ses peintures murales. C'est quelqu'un qui est passionné par la peinture, Agnès Varda, et qui le montre dans ses films, alors que ce soit par la reconstitution de peinture, on se souvient de Jane B par Agnès V, ou Jane Birkin reprend des poses de peinture classique, mais il y a aussi cette idée ici de faire se confronter l'image photographique et la peinture murale. Alors c'est un documentaire qui est très mis en scène, puisqu'on sent qu'il y a presque des marques devant la caméra pour que les personnages s'avancent du fond du plan jusqu'à la caméra, et pour avoir la même taille à l'écran que ces peintures murales. Brigitte Rollet.
Moi, oui, ce que je trouve intéressant dans ce... dans ce documentaire, il y a plusieurs choses déjà par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les images, parce que les peintures murales ou le street art, même si on l'appelait pas comme ça, c'est aussi un lieu de revendication. Donc c'est à la fois une culture populaire, mais aussi où s'exprime le politique.
Les murs parlent, ça s'appelle pas murmure pour rien.
Voilà, les murs parlent, et donc ils parlent de certains types de luttes, et ce qu'on trouve là, je trouve d'une manière très très forte, c'est sa capacité à faire parler les gens d'eux-mêmes ou de leur art. Et ça, je trouve que, enfin, en revoyant la Visage Village, je trouve que, alors, on ne sait pas, parce que on a juste le moment où les gens disent des choses qu'on trouve intéressantes. Et peut-être qu'il y a eu des heures passées auparavant. Mais on sent quand même que c'est quelqu'un, c'est pas simplement elle. Elle, c'est la voix qui introduit. Mais en fait, elle est très généreuse dans sa façon de donner la parole à des gens qui ont des choses à dire et qui arrivent à l'exprimer d'une façon extrêmement, puissante, même si ce ne sont pas nécessairement des personnes qui pensent ou qui auraient pensé auparavant ou qui auraient conceptualisé. Et cette capacité, cette empathie avec les personnes qu'elle interview, ça, je trouve que c'est une constante vraiment de celui-là jusqu'à ses derniers documentaires, à l'exception des plages d'Agnès, où là, je trouve, on est vraiment dans le film testament plus auto-centré. Mais sinon, il y a vraiment cette ouverture aux autres qui passe. Et bien sûr, elle le dit elle-même au tout début, elle se demande si le cinéma va lui permettre d'exprimer les choses comme le fait la peinture, comme le fait la littérature. C'est quelqu'un qui est beaucoup en référence aux autres arts. Et là, justement, par le biais de ses peintures murales, elle arrive à conjuguer à la fois le cinéma, la peinture murale et une certaine vision du monde qui est la sienne. Donc c'est une démarche, là encore, très, très nouvelle. Et puis, le fait qu'elle soit aux États-Unis, je ne connais pas beaucoup de cinéastes qui se soient exilés volontairement. Bon, à part les cinéastes qui sont partis pendant l'occupation, mais sinon, et qui est fait, elle fait feu de tout bois, Varda. Et là, elle est là-bas et elle se débrouille pour innover encore dans ce domaine du documentaire.
Et pour innover d'autant plus que de ce film va surgir un autre film, comme si des fissures des murs qu'elle avait filmés sortaient ceci.
« Allô?
Émilie?
Oui?
C'est Ginou.
Oui? Comment tu m'as trouvé?
Figure-toi que j'ai su que tu travaillais chez Delphine et j'ai demandé son numéro au consulat.
Ah, je suis contente de t'entendre. Tu es à Los Angeles?
Oui, oui, pour 8 jours et j'aimerais bien te voir. Il y a si longtemps. Tu vas bien?
Oui, je vais bien.
Martin va bien?
Oui, oui, il va bien.
Et Tom?
On est séparés.
Mais non, c'est pas possible. Pas vous.
Mais...
Pas vous, vous vous entendiez si bien. Je n'arrive pas à le croire. Hier encore, j'ai parlé de vous deux à mes amis qui m'hébergent. Je voulais qu'ils vous connaissent. Émilie, je suis désolée. Oh, je suis désolée, Émilie, je ne savais pas. Qu'est-ce qui est arrivé?
Mais je ne sais pas.
Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais depuis qu'on était en... Depuis qu'on est venu en Amérique, ça a plus tellement marché.
Et Martin, qu'est-ce qu'il dit, Martin?
Il dit pas grand-chose.
Et toi, tu tiens le coup?
Non.
Je suis vraiment désolée. Je vais venir te voir. Tu veux bien?
Oui, j'aimerais bien.
Émilie, je suis désolée. J'ai pas voulu te faire de peine. Écoute, dis-moi que tu vas bien quand même.
Non.
Extraordinaire, Sabine Mamou dans documentaire. Sabine Mamou était la menteuse d'Agnès Varda. Le Martin dont on parle dans le film, qui est donc l'enfant, le garçon d'Émilie, c'est Mathieu Demy. On est dans une fiction, officiellement, même si ça résonne beaucoup avec la réalité, et surtout avec ce procédé que je trouve extraordinaire, qui consiste à inclure des images documentaires, non pas pour contextualiser l'environnement, et c'est un peu l'envers du soleil californien de ce qu'elle avait filmé dans Murmure, mais pour donner des états mentaux. C'est-à-dire comme si les images de ces pêcheurs, les images de ces Mexicains qui travaillent comme ça un peu partout à Los Angeles, décrivaient un état mental. Et c'est ce qu'elle avait déjà fait dans un documentaire qui s'appelait Opéra Mouf, où on voyait le petit peuple de la rue Mouffetard reflétant les états mentaux on parlait tout à l'heure des femmes bulles, d'une femme enceinte.
Mais on voyait déjà ça, je trouve, dans La Pointe Courte. Parce que là, il y a ce couple, d'ailleurs, on se rend compte que c'est quand même une constante, les couples qui se posent des questions ou les couples qui se séparent chez Varda. Enfin, même si dans Le Bonheur, ils ne s'en posent pas. Et c'est peut-être ça le problème, en fait. Mais ce couple dans La Pointe Courte, on a ces scènes quasi documentaires de pêcheurs, là encore. Et c'est cette façon de, justement, ne pas choisir entre fiction et documentaire. C'est ça qui est intéressant aussi, cette liberté, s'affranchir là encore des règles qui veulent qu'il y a les personnages et puis il y a les gens qui sont pas des personnages. Bah, si elle fait les pêcheurs deviennent des personnages et puis à la limite ce couple dans La Pointe Courte comme dans d'autres films est inséré dans une réalité, et justement par rapport à tous les questionnements sur le réalisme au cinéma, le documentaire, la fiction, elle arrive à faire là encore sa petite cuisine tout à fait singulière. Et c'est dans documentaire, mais dans Cléo de 5 à 7 aussi, moi c'est un extrait que j'utilise beaucoup avec mes étudiants, quand Cléo sort du café et qu'on voit que les gens qui la regardent, et puis c'est entrecoupé de plans fixes, mais on parlait tout à l'heure de Marker et ce groupe Rive Gauche, enfin René aussi s'intéresse à ces plans. C'est une autre façon justement par rapport à une image toujours animée, toujours mobile, et ben d'arrêter le temps d'une certaine façon et de donner à voir quelque chose qui a trait à l'état mental de la personne.
Mais aussi parce qu'il y a presque quelque chose de cubiste chez Agnès Varda. C'est-à-dire que rien n'est jamais univoque dans ce qu'elle va montrer. Elle va le dire sur l'articulation entre murmure et documentaire. Elle va dire « Il me semblait injuste de montrer tant de soleil et de couleurs sans aussitôt montrer les ombres mauves et les visages d'une foule anonyme. » Et puis encore, il m'est naturel, dit-elle encore, d'aller de ci, de là, de dire quelque chose, puis le contraire, et de me sentir moins piégé parce que je ne choisis pas une seule version des choses. Alors on pourrait dire qu'elle dit tout et son contraire, mais aussi qu'elle fait quelque chose extrêmement dialectique finalement et qui se joue aussi par le montage, Marco Suzanne.
Oui, c'est des films qui sont comme des mosaïques ou des compositions musicales souvent, que ce soit les documentaires ou les fictions. Et je vois là aussi quelque chose qui vient un peu de la photographie encore. C'est-à-dire que c'est l'importance des plans aussi et tout d'un coup comment on passe du particulier au général, ce qui est vraiment le cas de documentaire, où le l'histoire de cette mère et de cet enfant, ça, on pourrait dire en gros c'est la fiction, et puis qui est baigné dans ce, dans ce monde du documentaire qui renvoie à son travail photographique.
Et donc, ce qu'elle faisait déjà d'ailleurs avec le Festival d'Avignon et le TNP, c'est-à-dire qu'elle faisait à la fois des photos officielles, on se souvient de ces photos de Gérard Philippe qui ont fait un peu le tour du monde, et puis elle documentait ce qui se passait sur le plateau.
Oui, et ses compositions, disons, ses compositions par le montage, c'est toujours ces allers-retours entre le général et le particulier, entre l'intime et la réalité, et qui peut être entre la vie et la mort, entre la joie et la tristesse. C'est toujours des variations de ton comme ça aussi.
Qui se joue aussi par le miroir, ça. On sait que c'est une figure presque obsessionnelle chez Varda, et depuis Cléo de 5 à 7, que de plein de miroirs. Et on a ça aussi dans documentaire. On a documentaire, moi aussi je me trompe, Sabine Mamou allongée nue, se regardant dans un miroir avec ce pli du miroir qui lui brise le visage quasiment.
Mais le miroir, c'est un accessoire éminemment cinématographique, mais en même temps, il est vrai que l'usage qu'en fait Varda, moi je m'étais intéressée à l'usage qu'en faisait Jacqueline Audry, par exemple, dans ses films, il y a toujours un plan d'une femme qui se regarde dans un miroir. Et justement, par rapport à la question de la représentation de la création, en particulier du corps féminin, je trouve que Varda va beaucoup plus loin, puisqu'elle montre des femmes qui se regardent nues, comme elle se regardait enceinte dans Opéra Mouffe. Et là, on n'est pas dans un regard sexualisée du corps, tout comme quand elle filme Mona dans Saint-Ouen-Illois, mais elle essaye de dépasser cette vision assez stéréotypée, cliché de la femme au miroir ou de la femme à la toilette en insérant justement l'accessoire du miroir. Mais le côté, le miroir fendillé ou le cadre coupé par quelque chose, c'est aussi, ça c'est moins original, c'est davantage cette manière d'insérer, de montrer, de donner à voir une femme qui se regarde pour elle-même, pas pour plaire, pas, moi je compare souvent avec Madame II d'Ophuls, où on voit Darieux qui est toujours en train de se regarder dans des miroirs, un peu comme Cléo au début, et où là on sent que c'est pour plaire, alors que chez Varda, il me semble qu'on est dans une autre conception du miroir.
La bille. Je t'entends, écoutez-moi.
Dis donc, ça chauffe là.
La bille féminin est placée avant le verbe. On écrit donc prise.
N'ayez pas peur.
Que j'en ai quitté, non. Chaque fois que j'hésite sur un accord de participe passé, je revois cette classe à l'école de Mauve et ce parachute qui vient volter au-dessus de la Loire.
Un visiteur bien tard. Entrez.
Un visiteur du soir.
Bonsoir. Là, le voisin.
Bonsoir,
Henri. Oui, il y a les Boches, ça, qui ont fait une 200 tout le café, là, pour ramasser les jeunes pour la STO, là. Il a emmené Gaston, puis Paul. Puis les autres jeunes, ils avaient réussi à se sauver avant.
Les Allemands, ça les prend un coup.
Ah, et bien, Gilles aussi. Gilles,
il est arrivé au café. Dominique et Gilles.
Non, Dominique, non, ils l'ont pas emmené. Dominique, non, ils l'ont pas pris.
Non, mais c'est dans un film, Les Visiteurs du Soir.
Il a que ça dans l'idée, les films qu'il a vus à Nantes.
Ah, bah, faut que tu ailles voir les vieilles galants, là, les anciennes institutrices. Elle avait un projecteur avec des petits films, des charlots, là, des petits films très courts.
C'est une idée, ça. Il s'ennuie, le gamin.
Après La femme au miroir, L'homme au miroir, l'étonnant Jaco de Nantes, le film qu'Agnès Varda a consacré à l'enfance de Jacques Demy, tourné juste avant sa mort, sorti après sa mort, et elle filme à la fois l'enfance réinventée par ses soins de Jacques Demy, d'après ses souvenirs. Elle filme Jacques Demy et la mort au travail sur son corps, sur ses yeux, ses sourcils, ses mains. Et puis, elle filme aussi les films de Jacques Demy. C'est un film de montage, je trouve, tout à fait éblouissant et très étourdissant. Enfin, on comprend toujours pas tout. Pourquoi il y a du noir et blanc par endroit? Pourquoi il y a de la couleur à d'autres? Il y a un côté très... presque impressionniste, intuitif chez Varda. Je suis pas sûr que ce soit complètement rationalisé elle-même dans sa démarche. J'ai trollé.
Oui, en tout cas, oui. Là encore, on peut se dire c'est une innovation par rapport à l'idée reçue selon laquelle le noir et blanc c'est le passé et la couleur c'est le présent. Et là, en fait, elle joue avec ça de façon constante, mais sans que ce soit nécessairement. Moi, je trouve le film intéressant d'un point de vue cinématographique et par rapport à sa filmographie, mais je suis pas convaincue que le résultat soit nécessairement très. Comment dire, cette manière de mettre en scène, on a un souvenir de demi et hop, elle va nous donner la version filmée avec comédien. Et je suis pas sûre que ça marche si bien que ça.
Ce qui est pas surprenant, c'est qu'elle se sert des films de demi pour reconstituer son passé. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire tel épisode de son enfance lui inspirera telle scène de ses films. Mais c'est presque à rebours que ça se passe. C'était comme si les films de demi éclairaient et mettaient en scène son enfance. Enfin, je sais pas si c'est le sentiment que vous avez, Marco Suzanne.
Oui, il y a encore un effet de miroir là. C'est comme si le demi âgé est proche de la mort. Il faut le dire aussi. C'est quand elle le filme, elle fait ce film alors qu'il est mourant quasiment. Donc c'est une sorte de dernier cadeau qu'elle lui fait. C'est ça qui est assez émouvant aussi. Et c'est pour ça que je trouve presque ce qui est le plus émouvant dans le film, c'est les plans de lui sur la plage où elle filme sa peau de très près juste avant qu'il disparaisse. Et c'est un peu comme si les deux demi, l'enfant et l'adulte proche de la mort se regardaient. C'est ça que je trouve touchant dans le montage, en fait. Moi, je trouve que les jeux de montage dans le film sont vraiment ce qui crée l'émotion plus que les scènes elles-mêmes, curieusement.
Oui. Oui, parce que sinon, en plus, je trouve qu'on est un peu dans l'homme, la vie, son œuvre, qui était la façon dont on nous enseignait la littérature à la Sorbonne. Et je suis pas sûre que ce soit pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le cinéma de demi, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen d'y rentrer. Ça rend pas aussi hommage que ça, finalement. Même si je comprends la démarche très personnelle, très intime, très touchante, en effet. Mais c'est une porte d'entrée qui marche sur
la complicité amoureuse et cinéphile des gens qui connaissent le cinéma de demi. Il faudrait presque être un intime de la famille Varda demi pour peut-être entrer complètement dedans.
Pour ce glanage-là, d'images, d'impressions, d'émotions, il n'y a pas de législation. Et dans le dictionnaire, glaner au figuré se dit des choses de l'esprit. Glaner des faits, glaner des faits et gestes, glaner des informations. Pour moi qui n'ai pas beaucoup de mémoire, quand on revient de voyage, c'est ce qu'on a glané qui résume tout le voyage. Quand je suis revenue du Japon, j'avais glané des souvenirs dans ma valise. Je rentre à la maison. Les chats sont là. Il y a du courrier, une plante à sécher, les autres pas. Et puis je regarde les fuites du plafond, les infiltrations, les moisissures. Je m'y suis habituée. Finalement, j'aime bien ça. On dirait un paysage ou une toile de peintre abstrait. Un tapis, un gokyang, un bord de riz. Il y a des gouttes qui tombent. J'ouvre ma valise. C'est ça qui est formidable. Dans un grand magasin de Tokyo, au dernier étage, voilà, il y avait des Rembrandts. Des vrais Rembrandts. Saskia, en détail. Et puis ma main, en détail. C'est-à-dire, c'est ça mon projet. Filmer d'une main mon autre main. Rentrer dans l'horreur. Je trouve ça extraordinaire. J'ai l'impression que je suis une bête. C'est pire, je suis une bête que je ne connais pas. Et voilà l'autoportrait de Rembrandt. Mais c'est la même chose en fait. C'est toujours un autoportrait.
C'est la même chose, c'est toujours un autoportrait, filmé d'une main, mon autre main. Là, le projet de d'Agnès Varda s'explicite et ira jusqu'aux plages d'Agnès. Et puis Visage Village va aussi dans cette direction-là. C'est évidemment Les Glaneurs et la Glaneuse, un film qui sort en 2000 et qui remporte un immense succès, assez surprenant. En tout cas, parce qu'il dit quelque chose de l'époque, parce qu'il filme la pauvreté, parce qu'il filme ce geste de ramasser et de se nourrir avec ce qui reste par terre dans les champs ou dans les marchés, et qui en même temps fait découvrir sans doute à toute une génération Agnès Varda. Et c'est la troisième Agnès Varda, un peu. On l'a entendu, sa voix a changé, et c'est comme ça qu'on la connaît maintenant, cette vieille dame avec les cheveux bicolores, et avec cette voix qui est, et ce discours qui est à la fois un peu fantaisiste et très grave en même temps, puisque son projet, c'est comme elle l'avait fait avec Jacques Demy, de se filmer vieillissante.
Moi, j'aime beaucoup ce film, et en même temps, en bonne littéraire, quand elle parle de sa main, je pensais toujours à Roquentin au début de La Nausée de Sartre, qui, en voyant sa main, justement, sa main qui va se poser des questions sur l'existence. Alors, je ne sais pas si, comme Varda est assez littéraire quand même, je ne sais pas si la comparaison est voulue ou pas. En tout cas, quand on voit sa façon de filmer sa main par rapport à la manière dont elle filmait la peau de Demy, on se rend compte qu'il y a vraiment un lien très très fort entre se filmer pour ne pas disparaître, et que c'est quelque chose qui va devenir en effet son cinéma, avec des films de plus en plus testamentaires, avec Les Plages d'Arda comme le plus marqué dans ce registre. Mais c'est vrai que c'est une Varda que beaucoup de gens découvrent à ce moment-là. Les chiffres, je n'ai plus en tête exactement le nombre d'entrées, mais par rapport à ces autres documentaires, il y a eu vraiment une sorte de... Le film est arrivé à un bon moment, disons, où ces questions-là touchaient un plus grand nombre de spectateurs.
Alors, les contempteurs d'Agnès Varda, parce qu'il y en a, vont lui reprocher justement cette trop grande présence. Pour Visage Village, certains vont parler d'un égo trip un peu gênant. Et notamment pour ce film Les Glaneurs et la Glaneuse, où elle ne cesse d'aller à la rencontre de l'autre, y compris du corps de l'autre, dans ce qu'il peut avoir de plus dérangeant parfois, parce que ce sont des corps fatigués, des corps abîmés par la vie, pour finir par faire un autoportrait. On est encore dans une dualité assez étonnante, Marco Souza, où finalement, je cite Claude Murcia dans ce livre des presses universitaires de Rennes, que je citerai à la fin, Agnès Varda, le cinéma et au-delà, il dit que le projet d'Agnès Varda, c'est penser l'autre pour penser soi. C'est ce que fait Agnès Varda à la recherche de sa propre altérité.
Oui, alors bon, il y a là aussi une forme d'honnêteté, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les précédents documentaires dont on a parlé, cette subjectivité, cette idée qu'aussi il faut passer par soi pour aller vers l'autre, que ne pas tellement croire en une objectivité absolue. Voilà, après, peut-être à partir des Glaneurs et de la Glaneuse, peut-être qu'elle va prendre plus de place à l'écran, et elle va devenir un personnage de plus en plus présent, et peut-être de plus en plus omniprésent, et peut-être un peu trop, à mon avis, au bout d'un moment. Mais ça se joue pas de la même façon, à mon avis, dans Les Glaneurs et la Glaneuse que dans les films d'après, que dans Visage Village, par exemple, où je trouve que les rencontres avec les autres sont plus problématiques, à mon avis.
Brigitte Rollet.
Oui, non, en fait, on a l'impression, c'est vrai, dans son cinéma, quand... on l'interroge au début de sa carrière, il y a toujours cette idée, et ça c'était une constante chez les femmes créatrices, quel que soit l'art considéré, il y a toujours l'idée que les femmes n'ont pas la capacité de créer, qu'elles n'ont pas accès à la métaphysique, ni à la création, à la procréation, oui, mais pas à la création, et du coup qu'elles ne peuvent créer que à partir de ce qu'elles connaissent. Donc c'est l'autobiographie sous toutes ses formes, dans la littérature, dans le cinéma, ou ailleurs, cette idée d'incapacité à aller au-delà de son propre vie et sa propre existence. Et alors, je sais pas si Varda, parce qu'au début, quand on lui avait posé la question par rapport à Cléo, elle avait dit non, j'ai pas de cancer, pour vraiment mettre une distance entre sa création et elle-même. Mais donc, je sais pas du tout si c'est le fait de une espèce de pied de nez. Peut-être que je lui prête des intentions qu'elle n'a pas. Une espèce de pied de nez par rapport à cette tradition qui veut que les femmes ne peuvent raconter que des choses qui les concernent directement. Et que là, elle arriverait à un âge pas canonique, mais quand même tout à fait honorable, de se dire que c'est elle qu'elle va montrer. D'autant que elle est quand même une des rares à montrer des femmes de son âge Même s'il y a quelqu'un qui est là, en l'occurrence, on ne peut pas dire que ça pullule sur les écrans, que ce soit des documentaires ou des fictions. Donc, mais peut-être que je prête des explications qui ne sont pas les siennes et qu'elle est en effet simplement dans un égo trip discutable. Mais il y a cette possibilité, en tout cas.
Marco, je pense que ça joue différemment, en fait, dans les glaneurs et la glaneuse, c'est elle en tant que corps, donc, et regard. Dans Les plages d'Agnès, c'est sa biographie, son autobiographie, elle se raconte. Et dans Visage-Village, ou Village-Visage, je ne sais jamais dans quel ordre c'est.
Visage-Village.
C'est plus elle en tant que, pour dire ça un peu brusquement, en tant que star, quoi, un peu. Hein, c'est-à-dire qu'elle est devenue aussi une figure, on reconnaît sa silhouette, elle est invitée partout dans le monde, célébrée. Et donc elle est aussi une image, presque une. Et donc je trouve que, voilà, dans ces différents films, ça se joue différemment. J'aime, dans la. Cette histoire de main dit bien que c'est aussi quelque chose de plus douloureux, de plus profond dans les glaneurs et la glaneuse. Même si dans Visage Village, il y a des moments aussi où elle évoque la mort, etc. Mais c'est d'une manière plus superficielle. Sa présence est plus superficielle et encombrante, à mon avis.
Au port du Havre sont arrivés. Au port du Havre sont arrivés. Trois beaux navires chargés de blé, des pommes, des poires et des raves, des choux. Des figues et des fraises et du raisin doux. Trois dames s'en vont, les marchands des gentils marins ont bien tombé. Montez mesdames, vous le verrez, des pommes, des poires et des raves, des choux. Des figues et des fraises et du raisin doux.
C'est Agnès Varda, bien sûr, hein, qui chante le port du Havre. Donc il n'y a pas que la mort, il y a aussi l'enfance. C'est une chanson de son enfance qu'elle chante dans Visage Village, son dernier film en date, co-signé, rappelons-le, c'est peut-être aussi la raison, avec le street artiste JR. Documentaire qui figure avec Les plages d'Agnès, Les glaneurs et la glaneuse. Deux ans après, Murmure, documentaire Agnès de ci, de là, Varda, ça on n'en a pas parlé, avec un très beau portrait de Chris Marker d'ailleurs dedans. Et puis quelques courts-métrages encore dans le coffret DVD que sort Arte, Le bonheur, l'une chante, l'autre pas et Jaco de Nantes, dans leur version restaurée, sont eux disponibles en DVD individuel, toujours chez Arte. Vous pourrez donc voir tous ces films sur grand écran et puis d'autres encore à la Cinémathèque française du 16 au 28 janvier. Agnès Varda donnera d'ailleurs une masterclass, enfin elle préfère appeler ça une causerie. Ce sera le dimanche 20 janvier après la projection des Glaneurs. Merci beaucoup Brigitte Rollet. Votre Merci étude sur le cinéma d'Agnès Varda, Autre regard, autre histoire, Agnès Varda et les théories féministes figurent dans le livre collectif édité par les presses universitaires de Rennes, Agnès Varda, le cinéma et au-delà, livre qui nous a été d'autant plus précieux dans la préparation de cette émission qu'il n'y a quasiment rien en France sur le cinéma d'Agnès Varda, contrairement aux États-Unis ou en Angleterre, où là, son cinéma est abondamment commenté. Et puis, si vous voulez découvrir une autre cinéaste pionnière contemporaine des débuts d'Agnès Varda, Nicole Vedrès, autrice du Paris 1900 dont nous avait parlé Charlotte Garçon dans Plan Large en mai dernier, eh bien, vous recommande la lecture de Védresse et le cinéma, livre de Laurent Véret, paru aux nouvelles éditions Place dans la collection Le cinéma des poètes. Le cinéma d'un poète, tiens, voilà qui ferait une parfaite définition, n'est-ce pas, Marco Souzal, de celui de Philippe Garrel.
Tu sais, j'ai un petit enfant, un garçon qui s'appelle Swan. Son père n'a pas voulu le reconnaître, alors il porte mon nom. Quand il est né, son père devait venir le voir à la clinique. C'est un acteur et il tournait un film, ils en étaient à la fin. Et puis il n'est pas venu. Alors, quelques jours après, je suis allée le voir sur le plateau où il tournait, avec le bébé. Et là, je lui ai parlé 2 minutes, entre deux prises, et il m'a dit qu'il allait reconnaître l'enfant. Et puis, je ne l'ai jamais revu.
Qui s'occupe de lui ?
Sa grand-mère. Pas ma mère à moi, mais sa mère à lui. Parce que je n'ai pas d'argent et je voyage tout le temps. Je trouve que c'est pas moral.
Je sais pas. Je veux pas d'enfant.
Si j'allais le chercher maintenant, tu m'attendrais ? Tu sais, c'est pas loin, il habite en banlieue, c'est à 1 heure de train. Tu m'attends si j'y vais ? J'aimerais beaucoup que tu le connaisses. Tu sais, il est très beau, très drôle. Enfin, mieux que ça, et je suis sûre que tu t'entendrais bien avec lui.
T'es fière ?
Oui. C'est l'homme de ma vie, comme on dit.
Vous aurez sans doute reconnu la voix d'Anne Wiazemski face à elle. Plus difficile à reconnaître, un autre modèle bressonien, Henri de Maublanc, c'était le Michel du Diable probablement. On est en 1979, à cette époque Philippe Garrel et la chanteuse Nico avaient tourné 7 films ensemble et puis ils se séparent. Et ce que raconte le cinéaste dans L'Enfant Secret, c'est pas leur séparation, c'est leur rencontre. Le film tourné en 1979 sort seulement 3 ans plus tard, en 1982. Il remporte le prix Jean Vigo et il est considéré... rétrospectivement comme un tournant dans son œuvre, puisque après 15 ans de films expérimentaux, il commence, je vous cite Marco Souzal, je vais aux bonnes sources, dans votre article de Libération sur l'amant d'un jour, Philippe Garrel commence à se retourner sur son passé pour en faire la matière d'une œuvre que l'on pouvait alors qualifier d'autobiographique. Philippe Garrel, je vous cite encore, n'a au fond filmé qu'une chose, des rencontres, des séparations et entre les deux, des amours, se promettant l'éternité avant de sombrer trop tôt, ce qui est quasiment parfaitement le synopsis de L'Enfant Secret, Marco Souzal.
Oui, et puis enfin, on peut dire que ce sera le synopsis de la plupart de ses films à partir de celui-ci, qui est non seulement l'un de ses plus beaux films, mais vraiment effectivement une charnière dans son œuvre. Alors, rappelons un peu qui était Garrel quand il fait ce film en 79. Il a 31 ans, mais il a déjà une longue filmographie. Il a fait 15 films. On raconte qu'il a fait son premier court-métrage à 13 ans, un film qu'il a détruit plus tard, qui s'appelle Une plume pour Carole. Et puis ensuite, à 16 ans, il va réaliser Les Enfants désaccordés, qui est déjà un petit... petite merveille, donc c'est un cinéaste très très précoce qui va être remarqué surtout pour Marie pour mémoire en 67. Et cette précocité extrêmement talentueuse, la dimension éminemment poétique de ses films, leur liberté comme ça radicale, lui vaudront le surnom de Rimbaud du cinéma. Et pendant toute cette première période, entre ses 16 ans et ses 30 ans, disons, ses films et sa vie vont être totalement entremêlés. Il va alors en quelque sorte transfigurer en direct, on pourrait dire, ses amours, ses amitiés, ses rêves. Il y a une dimension très onirique dans son cinéma de l'époque, mais qui va quand même demeurer jusqu'à aujourd'hui encore. C'est quelqu'un qui s'inspire encore beaucoup de ses rêves, ce qui est une de ses singularités. Et ces films sont comme des, on pourrait dire, des visions poétiques arrachées à un journal intime. Ce sont souvent des films muets, ou avec très très peu de dialogue. Parce que c'est un cinéaste avant tout de l'image, il le revendique, que l'on pourrait presque le qualifier de primitif, tant il semble opérer une sorte de retour aux sources, à Lumière, à Murnau, à Epstein, un cinéma d'avant la parole. Il dira d'ailleurs que pour lui, l'image est du côté de l'irrationnel, tandis que le son est du côté du rationnel. Donc L'Enfant Secret, même si c'est encore un film très marqué par le muet, où les dialogues sont encore rares, ceux-ci vraiment prendront de l'importance à partir d'un film un peu plus tardif qui est Les Baisers de secours. L'Enfant Secret représente néanmoins un tournant, d'abord parce que Garrel, il prend du recul sur sa vie, vous l'avez évoqué, hein, cette distance qui sépare, disons, le journal intime de l'autobiographie. Ça passe par une forme, une nécessité de passer par... la narration, lui-même dira qu'il est passé avec ce film de la poésie à la prose. Et puis, donc c'est un film qui est moins nourri par ce qu'il vit que par ce qu'il a vécu. Et donc, en l'occurrence, effectivement, des événements très marquants de sa vie, qui reviendront dans plusieurs de ses films. Son histoire d'amour avec Nico, chanteuse et Géry de Warhol, une histoire d'amour passionnée, complexe, marquée par la toxicomanie de Nico, et par le séjour que Garrel a passé en hôpital psychiatrique et pendant lequel il a subi des électrochocs. Donc c'est un des grands traumatismes de sa vie. Et L'Enfant Secret du film, si on veut trouver la clé autobiographique, c'est ce Swan, c'est Harry Boulogne, l'enfant que Nico a eu avec Alain Delon, que Delon n'a jamais reconnu et qui a été recueilli par la mère de Delon.
Qu'est-ce que tu fais ?
J'envoie une carte postale à Swan.
Tu l'as mis ?
Mon chéri, je ne suis pas encore partie pour Londres. Ta mamie me dit que tu es très content. Nous irons cet hiver tous les deux, si ta mamie veut bien. Tu n'as jamais vu un endroit aussi beau. Mais il ne faut surtout pas que tu te coupes les cheveux. Sauf la frange. C'est très important pour le film. Nous allons continuer. Ta maman. qui t'aime.
Est-ce que les pensées, les regards, les mots d'amour et les secrets gardent leur valeur quand on les exhibe devant les autres comme ça? J'ai envie de tout abandonner.
C'est comme si j'étais en exil à l'intérieur de moi-même.
Voilà, alors est-ce que les pensées, les regards, les secrets, les mots d'amour gardent leur valeur quand on les exhibe devant les autres comme ça? Voilà la question que pose ce personnage de cinéaste dans le film, qui est bien sûr un alter ego de Garel lui-même. Et c'est la grande question de son cinéma, et qui se pose d'une façon nouvelle à partir de cette époque, c'est-à-dire comment restituer la force de l'intime, l'incandescence d'un amour, la douleur d'une séparation, sans les exhiber, sans en faire un spectacle indécent. Et on peut dire que c'est en cinéaste qu'il y répond, en poète. D'abord par sa manière de tourner, c'est pas du tout quelqu'un qui va reconstituer sa vie, il va la rejouer presque au présent, retrouver une sorte d'intensité du présent à chaque plan. C'est quelqu'un qui fait, on le sait, qui tourne dans l'ordre et qui tourne une seule prise à chaque fois. Donc il y a une sorte de risque à chaque fois qui donne une présence incroyable, une incandescence incroyable à ses plans. On peut dire aussi qu'il le fait à travers, d'une certaine manière, la matière même du cinéma, cette matière de la pellicule qui est rendue sensible par le noir et blanc, ce grain du noir et blanc. La matière du cinéma, c'est aussi le fait de laisser les plans, les prises jusqu'au bout, jusqu'à ces surexpositions de fin de bobine, de laisser même le son de la caméra. Et on peut dire que c'est cette matière presque qui constitue l'espace de l'intime, hein, où baignent les personnages, les visages, les corps, tout ce qui circule entre eux, comme si le cinéma était cette matière poétique qui donnait forme à l'intime, et qui est ce que j'appellerais une sorte de photogénie de l'intime. Et à l'intérieur de ça, cet enfant secret représente presque l'enfance même du cinéma. Garel le montre explicitement, notamment dans ses plans où il accompagne des images de l'enfant d'une musique de Chaplin, ou aussi dans ses autres plans très très frappants où il filme, il ralentit l'image de l'enfant sur un écran de mur viola, où tout d'un coup ressort tout le grain, toute la matière même de la pellicule. Alors il y a une phrase qui est restée célèbre dans ce film, que Nico aurait vraiment dit à Garel, qui est « tu as une caméra à la place du cœur », qu'on peut interpréter de deux manières, c'est-à-dire « tu n'as pas de cœur » ou alors « tu filmes avec ton cœur ». Voilà, ce sont les deux choses à la fois, qui l'ambiguïté du cinéma de Garel, son dilemme.
Sous-al sur cette musique signée Faton Kaen pour le film de Philippe Garel. Il me reste à préciser que L'Enfant Secret est édité par Revoir Vidéo, avec un livret comprenant un texte de Serge Danet, un entretien de Philippe Garel avec Thomas Lescure et le scénario du film, le tout en édition bilingue franco-anglaise. Donc vous pouvez même l'offrir à des amis anglophones. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui et pour 2018. À la prise de son, Julien Douminck. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. On se retrouve l'année prochaine pour parler d'Éric Rohmer, dont la Cinémathèque française, encore elle, présentera l'intégrale des films à partir du 9 janvier. Une rétrospective qui sera reprise à partir de février dans plusieurs salles et dans toute la France. Nous serons avec deux passionnés de son œuvre, Carole Desbarra et Philippe Fauvel. Bonne fin d'année à toutes et à tous. D'ici là, vos programmes continuent évidemment sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.